Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, étude biblique sur le livre de l'Apocalypse, 16e partie, Babylone, suite.
Bonjour à tous. Je vous propose que nous situions notre méditation, notre réflexion dans l'évangile de Luc, dans un premier temps, évangile de Luc au chapitre 21. Un passage que vous avez lu et relu, et j'aimerais, à partir de ces données, eh bien, aller un peu plus loin. Donc, Luc, chapitre 21, verset 27. Ça fait partie de ces enseignements prophétiques que Jésus laisse à ses disciples, à nous-mêmes, naturellement, aujourd'hui, ce que l'on appelle l'eschatologie, le retour de Jésus-Christ. Voilà, un mot un peu compliqué, mais on comprend ce que ça veut dire pour nous qui sommes familiarisés avec l'Écriture. « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Voyez le figuier et tous les arbres dès qu'ils ont poussé. Vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. » De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un voleur, sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Voilà ce que nous dit Jésus. Je voudrais introduire cette méditation faisant suite à ce que nous avons l'habitude d'étudier tous les mois, le livre de l'Apocalypse. Et je vais cibler sur quelque chose que je vous ai dit mercredi dernier, que nous allions parler de cette femme qui chevauche la bête. Alors c'est peut-être mystérieux, mais on va essayer de donner une explication. Et la première explication, et l'explication que j'aimerais vous donner, c'est, vous le savez aussi bien que moi, c'est que dans le temps, les temps apostoliques, au moment où Jésus est venu, lorsque les apôtres ont commencé à prêcher l'évangile, il y avait quelque chose qui était dominant dans le monde d'alors, le monde antique d'alors, c'était la mythologie. Mythologie gréco-romaine, mythologie égyptienne, et puis tous les peuples de ce temps, tous ces grands empires, eh bien, avaient une caractéristique, c'est que c'était le temps, l'ère du polythéisme, l'adoration de plusieurs dieux. Le christianisme, eh bien, là, a mis en évidence tout simplement un seul dieu. Mais on s'aperçoit que quand l'apôtre Paul, ou quand Jésus, et puis les uns et les autres, les juifs et puis les autres, était dans une culture qui était une culture très marquée par la mythologie, mythologie grecque en particulier. Et j'aimerais quand même vous dire, alors ce n'est pas politique, mais c'est une constatation de fait à travers l'histoire, c'est qu'il est remarquable de constater que les deux symboles utilisés par l'Union européenne se trouvent dans la Bible. Je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais il faut quand même dire quelque chose. Le premier symbole se trouve à Strasbourg, où, et vous savez que c'est là où siège le Parlement européen, où a été construit donc le siège du Parlement européen sur le modèle de la tour de Babel. Si vous allez à Strasbourg, ou vous tapez sur Internet, vous allez voir Parlement européen Strasbourg, et vous allez voir, c'est le Parlement est un Parlement en verre, naturellement fait de verre, et il a la forme d'une ziggoura. Les ziggouras, c'était les tours que nous avions, dans l'Empire de Babylone. Le second symbole adopté par l'Union européenne, je dis bien adopté, est une femme chevauchant une bête que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse que nous avons lu le mercredi dernier. Ce symbole européen est représenté donc par une statue qui est l'une des principales attractions devant le Conseil de l'Europe à Bruxelles. Il y a là tout simplement un taureau sur lequel chevauche une femme. Ce second symbole sur lequel nous allons nous intéresser et réfléchir ne peut être décrit autrement que par des termes de perversité et démoniaque. Dans sa représentation de l'abus et de la dépravation, il représente un acte criminel contre une femme. Il évoque tout simplement le mythe grec du viol de l'Europe ou de viol de Europe. Vous savez que le nom de notre continent, c'est un nom mythologique donné à une femme. Alors j'ai approfondi, mais je ne voudrais pas trop vous en parler parce qu'on va rester particulièrement sur l'enseignement biblique. Donc, cette mythologie grecque parle d'une femme qui se fait violer. Elle s'appelle Europe. C'est une jeune femme grecque. C'est de ce mythe et de cette femme que le continent européen tire son nom. Nous retrouvons une femme chevauchant une bête dans l'Apocalypse, et je lis le texte, nous l'avons lu mercredi dernier, où l'apôtre Jean, dans sa vision, dit ceci, « Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous avions commenté le texte mercredi. C'est donc dans Apocalypse chapitre 17, versets 3 à 6, que je vous invite à ouvrir maintenant. Mais pour comprendre ce symbole, nous allons reprendre rapidement le mythe du viol de Europe. Deux mots de mythologie. Le père des dieux, Zeus, ou Jupiter chez les Romains, ayant aperçu une très belle femme qui porte le nom d'Europe, est seul sur une plage de Phénicie, et il veut la séduire. Il se transforme à ce moment-là en un taureau d'une blancheur étincelante avec 2 cornes, écoutez bien, en croissant de lune. Et il se couche aux pieds de cette jeune fille Europe. La jeune femme monte sur ton dos parce qu'elle est séduite. Et il l'emmène et il s'enfonce dans la mer et il la viole. C'est horrible. Mais ça, c'est la mythologie. De leur union, suite à ce viol, naissent Nymos. Il y en a 2 autres, mais naissent Nymos. Or, Nymos va devenir le juge des enfers, dans la mythologie grecque. Le juge des enfers. Quand Europe meurt, elle reçoit les honneurs divins en tant que reine du ciel. Ça nous rappelle tant de choses. Tandis que le taureau se fond dans la constellation que nous appelons aujourd'hui encore la constellation du taureau. Ce symbole de la femme sur la bête est utilisé depuis la création de l'Union européenne par les hommes politiques et les autorités. À plusieurs reprises, dans la monnaie européenne ou la monnaie des pays, avant de passer à l'euro, il y a eu en Allemagne l'émission du marque, 5 marques, où il y a la représentation de la femme qui chevauche le taureau. sur un thème britannique de 1984. Il y a l'effigie de la femme qui chevauche le taureau. Dans l'écu allemand qui s'appelle aujourd'hui, l'euro, en 1992, il y a également l'effigie de la femme qui chevauche le taureau. Je les ai en reproduction, là, ici, hein, devant moi, hein, je les vois, là. Voilà. Et nous voyons qu'il en vient, et on va passer maintenant au commentaire biblique, il en est qu'il est évident que l'Europe est cette femme sur la bête, et elle revendique, mais qui est cette bête ? On sait que dans la mythologie, c'est le symbole, tout simplement, d'un taureau. Mais nous allons aller voir maintenant plus loin. Et ce sont les hommes qui ont créé cela, en se servant tout simplement de la mythologie. En reprenant un peu ce que nous avons dit dernièrement, la grande stupéfaction de l'apôtre Jean à la vue de ce que l'ange lui montre, c'est la mutation. Je dirais une mutation, non pas dans le sens positif, mais une mutation dans le sens négatif, une dégénérescence de celle qui était l'épouse et qui se dit encore l'épouse du Christ, mais qui est devenue une église corrompue, prostituée, dépravée, en raison de ses alliances et de ses compromis avec le monde. On l'a dit et je le répète, il y a la véritable église de Jésus-Christ, née de l'Esprit, qui reçoit la foi dans son cœur et qui est enracinée dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Une église qui est faite d'hommes et de femmes qui se sont repentis dans leurs péchés, qui se sont convertis non pas à un mouvement, non pas à une église particulière, une appellation, mais à Jésus-Christ lui-même, qui est devenu le Sauveur et le Seigneur de leur vie, et qui sont nés de nouveau, une nouvelle naissance, selon les enseignements de Jésus à Nicodème, Jean chapitre 4, nouvelle naissance. Alors, on s'aperçoit que nous allons redécouvrir qu'il y a quelque chose qui est en contradiction entre la véritable Église de Jésus-Christ et puis la fausse, c'est-à-dire celle qui se dit l'Église de Christ, mais qui ne l'est pas, et qui est taxée de prostituée. Les mots sont forts, ils sont audacieux, mais c'est pourtant une réalité. Alors, pour aller plus loin, cette église, cette fausse église, est méconnaissable. Elle a la phraseologie de la Bible ou de l'Évangile. Elle en porte parfois les noms. Elle a des discours d'apparence qui a trait au christianisme, mais dans le fruit, c'est exactement le contraire. Le fruit est absolument mauvais. Elle est donc méconnaissable tellement elle fait un avec le système antichrétien et immoral sur lequel elle chevauche. Et c'est ce que nous avons et c'est ce que nous allons voir. Et nous reprenons notre texte, Apocalypse chapitre 17, verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Le problème, c'est que cette fausse église, cette fausse déclaration de foi ou confession de foi, ne s'appuie pas sur Jésus, sur sa parole, sur sa révélation, mais elle s'appuie sur un environnement qu'elle a épousé et elle ne joue que d'illusion, d'être ce qu'elle n'est pas. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Parce que les fruits, à l'intérieur de toi-même, c'est exactement le contraire du christianisme. C'est à l'opposé du christianisme, qui n'est fait que d'humilité, de douceur, d'amour, de vérité, de justice, et j'en passe. Il y en a autant que vous voulez, naturellement, parce que c'est le caractère même de Dieu. Alors nous allons apprendre maintenant par l'histoire. On ne peut pas faire abstraction de l'histoire quand on est chrétien, et qui plus est quand on est prédicateur. Parce que autrement, à ce moment-là, on ferme la Bible. C'est même pas la peine de l'ouvrir. La Bible est un livre d'histoire. C'est l'histoire de l'homme. C'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'histoire de Dieu qui rentre dans l'humanité et qui appelle l'humanité à venir vers Dieu et non pas à s'en éloigner. Alors il y a des choses très intéressantes et qui sont frappantes pour nous aujourd'hui. Je suis toujours très prudent quand il s'agit de spéculations apocalyptiques. Mais j'ai appris que la Bible se répond par elle-même. Maintenant, il y a des fêtes aussi dans notre monde, sans vouloir donner de date ni de lieu. Hein. Faisons attention à cela, mais qui quelquefois nous interpelle. Et je trouve d'autant plus de force de pouvoir expliquer les choses par l'histoire, c'est qu'avant nous, il y a eu une histoire. L'histoire du peuple juif, l'histoire des prophéties, l'histoire de Jésus. Et on s'aperçoit qu'au millimètre près, dans les prophéties, les prédictions de tous ces grands prophètes, Jérémie, Ésaïe, David même, et les uns et les autres qui se succèdent, sur l'espace de 1000 et quelques années, et plus que cela encore, on s'aperçoit qu'au millimètre près, tout ce que Dieu a dit, ça s'accomplit réellement. Ça s'accomplit ponctuellement, pas comme nous le pensons, mais comme Dieu le fait, parce que c'est lui qui tient l'histoire et l'histoire de l'humanité entre ses mains. Et on se dit, mais c'est merveilleux. Quand on voit comment, déjà dans le psaume 22, je dis bien le 22, comment David, à ce moment-là inspiré, prophète de Dieu, va décrire dans les moindres détails la crucifixion de Jésus pour notre salut. Oh, je me dis, mais Seigneur, qui aurait pu penser une chose pareille? Quand je vois Ésaïe, parce que c'est l'évangile avant l'évangile, quand je vois Ésaïe qui écrit près de 64 chapitres sur la venue du Messie, sur l'histoire de son temps, des empires, etc., etc., et que tout s'accomplit, alors moi je me dis, on a eu raison tout à l'heure de prendre ce texte où Jésus nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ah ouais! Ça va? On va en entendre d'autres. Hein. Alors, on s'aperçoit que dans ce contexte, on va soit descendre ou remonter, ça dépend comment on se situe, mais ça n'a pas d'importance. On va descendre les temps, l'histoire, les événements marquants de ce que l'apôtre Paul dira et écrira le mystère de l'iniquité. Parce que, assurément, quand même, pour le monde, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant qu'il y ait le mal et le bien, qu'il y ait cette confrontation entre la lumière et les ténèbres, qu'il y ait la guerre, qu'il y ait cette méchanceté dans le cœur de l'homme. Ça, c'est le ministère de l'iniquité. N'y aurait-il pas quelque chose dans le monde invisible qui s'opposerait à ce Dieu créateur et à ce Dieu sauveur? N'y aurait-il pas quelque chose? Mais on le sait qu'il y a quelque chose. Alors vous allez me donner pourquoi l'occultisme, la magie, le satanisme, le spiritisme existent. Alors, ça existe. Il y en a qui croient plus à ça qu'à Dieu. Hein. C'est parce qu'il y a des forces antagonistes cosmiques qui s'opposent. Et nous, les petits bonhommes, nous sommes au milieu et nous sommes l'enjeu. Qui tu vas adorer? Qui tu vas prier? Qui tu vas croire? Ben, c'est la vieille promesse fausse mensongère du Jardin d'Éden, où là est distillée d'une manière très habile par le serpent quand il s'adresse à Ève. Est-ce que Dieu aurait réellement dit? Et là, tout s'effondre, le monde s'effondre. Parce qu'avant, il y avait une confiance totale. Parce qu'il n'y avait que la vérité, il n'y avait que la lumière. Mais à partir du moment où le poison a été instillé dans le cœur de l'homme, eh ben c'est parti à l'envers. Hein. Et nous en avons encore les conséquences. Pourquoi la mort? Enfin, je ne suis plus dans mon sujet. Je reviens. Quand je pars comme ça, c'est... Retenez-moi, s'il vous plaît. Mystère de l'iniquité, cette puissance mondiale de séduction qui entraîne le monde à la perdition. Et le plus terrible, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Un chrétien n'aurait jamais donné, finalement, l'emblème et le symbole de l'Europe, de notre continent, à une figure mythologique. Est-ce qu'on le sait, ça? Et pourtant, c'est un Occident chrétien. Tous les peuples qui sont réunis dans notre vieux continent sont quand même d'obédience et d'essence chrétienne. Eh bien, c'est pour vous dire que les gens sont beaucoup plus empreints de mythologie, de fables, de contes et toutes sortes d'histoires que de christianisme réellement. Nous ne sommes pas dans un monde évangélique. Hein. Nous sommes dans une société judéo-chrétienne, certes, mais où tout est mélangé, tout est amalgamé. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Nous l'avons lu tout à l'heure, le tandem, grande prostituée et bête. ont su adapter les dehors de la piété, une apparence trompeuse de foi, sorte de christianisme qui fait illusion. Pour le chrétien authentique, il y a un avant sa conversion et un après sa conversion. Facile à comprendre. Le grand bouleversement, qui n'est pas un bouleversement dans le sens d'aller de l'avant, mais dans le sens d'aller en arrière, ce que l'on appelle un rétrogradage, s'est produit d'abord dans l'Église chrétienne naissante au IVe siècle, sous l'instigation d'un empereur qui s'appelle Constantin, lorsque l'Empire romain est devenu chrétien. Pendant 3 siècles, il y a eu une guerre totale entre les cultes antiques de Rome, le polythéisme et le christianisme émergent qui prenait, dans la persécution précisément, de plus en plus de force et d'ampleur. Alors à un moment donné, cet empereur Constantin a dit maintenant, au lieu de les avoir contre nous et qu'on ne peut pas arriver à les vaincre, alors maintenant on va les prendre avec nous et on va les retirer à nous. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est l'histoire. Le christianisme, à ce moment-là, est devenu une religion dite religion d'État. Les souverains au pouvoir se sont fait appeler protecteurs de l'Église. Et encore aujourd'hui, ils reçoivent ce titre protecteur de l'Église quand ce sont des pays d'obédience chrétienne. De persécuter Doni. Voilà cette Église subitement honorée et choyée. On va lui offrir tous les trésors du monde d'alors. Si bien qu'elle est assimilée au système qu'elle finit par faire corps au système politique, économique, etc. Je le disais dernièrement, Jésus reviendrait et il verrait l'intitulé Église chrétienne avec ses fastes, avec la pompe, avec tout ce qu'il peut y avoir que nous connaissons et dans le monde romain ou dans le monde orthodoxe, avec toute cette brillance, avec toutes ces choses extérieures, ces choses qui séduisent les yeux, c'est beau, qui séduisent les oreilles, qui est très sensuelle, une religion des sens, mais où l'esprit est complètement absent. Quelqu'un a dit, les monuments restent, mais l'esprit est parti. Alors, elle s'est assimilée, elle est montée sur la bête. La bête, c'est le monde. C'est le système mondain. Et un cavalier, il fait corps avec sa monture. Parce qu'autrement, il ne va pas rester longtemps dessus. Hein. Il est véritablement bien harnaché et il fait corps. C'est une réalisation prophétique. Et je relis, par exemple, le verset 3, toujours de notre épître, de notre apocalypse, excusez-moi. Il me dit, l'ange me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, de parets d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, mais je tenais quand même à le rappeler. Désormais, l'état de l'Église et l'état lui-même, l'état mondain, décide, juge et punit, et ça marche. Comment il peut y avoir cet amalgame qui a donné pendant des siècles et des siècles dans notre monde, dit chrétien, ce que l'on appelle les guerres de religion? Le bras séculier, l'inquisition, c'est qu'il y avait les deux pouvoirs. Et souvent le pouvoir, entre guillemets religieux, je ne dirais pas spirituel, mais le pouvoir religieux, a été quelquefois plus fort que le pouvoir politique. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Le sang. Notre terre a été baignée de sang. Au nom de Dieu. Attendez, c'est pas fini. Hein. C'est terrible. Hein. Et nous qui sommes d'obédience protestante, quel prix l'Église de Christ a dû payer, hein. Que de sang, que de bûcher, que de galères, que de ceci et de cela. Vous savez, mes frères et sœurs, si nous pouvons lire tranquillement, paisiblement la Bible, nous le devons à ceux qui nous ont précédés. Ils ont payé le prix fort. Ouais. Alors, nous pouvons remercier et bénir le Seigneur d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Seigneur, réveille ton peuple pour qu'il prenne connaissance du prix payé. Prix payé par Jésus, mais le prix payé aussi par les autres. Parce que ça n'a pas toujours été... Aujourd'hui, on est venu tranquillement. Hein. Personne ne vous a demandé vos papiers là pour venir ici. Hein. Vous n'êtes pas passé au commissariat. Hein. Mais je peux vous dire que les églises du désert, elles ont existé pendant si longtemps. Ne l'oublions jamais. Alors, par le fait de cette mésalliance entre le pouvoir de l'État, le pouvoir mondain et l'Église, eh bien, cette dernière s'est unie corps, âme et esprit, comme on pourrait le comparer avec un riche amant. Un riche amant qui lui assurait, au travers des siècles, des richesses, des privilèges et des pouvoirs. Eh oui, c'est ce que nous retrouvons encore aujourd'hui. C'est l'église de Laodicée, l'église des derniers temps, qui dit « Mais je suis riche, je n'ai besoin de rien, je vois clair. » Et Dieu lui dit « Mais tu es pauvre, tu es malheureuse, tu es aveugle, tu ne te rends même pas compte de ta misère intérieure. » Le pouvoir temporel du monde n'allait pas tarder à produire un effet désastreux sur l'état intérieur et spirituel de l'Église. Et ça commençait 3e, 4e siècle. Tout est parti. Parce que quand le diable ne peut plus vaincre par la force, il vainc par la séduction. Et dans le discours prophétique de Jésus, dans les trois premiers évangiles, on sait bien ce qui est dit. Jésus nous dira, mais avant toute chose, prenez garde. Non pas des guerres, non pas de ceci, non pas cela, d'être séduit. Et le problème et le danger et la prudence que requiert la situation est toujours le même aujourd'hui, la séduction. Alors, ce pouvoir même du monde a détaché l'Église de plus en plus, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est pas métamorphosé du jour au lendemain, mais a détaché l'Église de plus en plus de son véritable époux et sauveur, c'est-à-dire Christ. L'Église véritable a un sauveur qui est son époux. La fausse Église a un amant. Séduite, élevée, au lieu de repousser les avances, elle les a accueillies. Mais bien sûr, c'est quand même mieux quand on peut être aidé. Mais il faut savoir si on est aidé de la terre, si on veut être aidé de la terre ou si on veut être aidé du ciel. Et là, ça change tout. Hein. Les dons ne sont pas les mêmes. Alors elle a accueilli les avances. Il y a un livre dans la Bible qui en parle. C'est le Cantique des Cantiques. Entre celui qui est le séducteur et puis la Tsunamite. Vous connaissez, c'est une belle histoire formidable. On en fera peut-être une étude un de ces jours. C'est un livre à la fois charmant mais formidable qui nous montre la tentation qu'il y a entre la fidélité et l'infidélité. On y reviendra. Il est déjà prêt. Alors, l'Église a accueilli les avances de son amant et désormais l'Église s'est partagée entre son époux légitime et son amant, d'où son nom infamant de grande prostituée. C'est Dieu qui l'appelle comme ça. Et c'est un adultère spirituel. Je le répète, ce n'est pas un adultère physique, mais c'est un adultère moral et spirituel. Spirituel avant toute chose. Précisons que cette aventure d'infidélité, toutes les confessions chrétiennes, représentatives et influentes, ont été entachées de l'esprit de ce monde. Quand Jean nous dit « n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde », il veut bien dire ce que ça veut dire. Parce que l'esprit mondain s'oppose à l'esprit chrétien. Soit on va aller véritablement vers, humainement parlant, charnellement parlant, tout ce qui peut être là, quelque part, l'empreinte de notre humanité, ou alors véritablement, par la nouvelle naissance, nous allons vraiment aspirer à, tout en ne reniant pas que Dieu nous a fait dans un corps, parce qu'on vit quand même dans ce corps, Jésus, je le rappelle, a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal qui est dans le monde. » Et un chrétien, c'est quelqu'un qui va vivre dans son corps avec toutes les pressions, les tentations, etc., etc., mais qui va toujours demander le secours de Dieu en disant « Seigneur, donne-moi d'être à l'image de Jésus, de vivre comme Jésus, d'aspirer à être. » Ça, c'est la grande différence. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est pas nous qui la faisons, c'est l'Esprit en nous dans la mesure où on le laisse faire. Ça, c'est encore une autre affaire. Pas toujours facile. Ne peut-on pas ne pas penser au verdict de Paul quand il déclare, en parlant d'un faux christianisme, « ayant l'apparence de la foi ou de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force ». Ce qui fait la force au véritable christianisme, mais c'est notre foi en Jésus-Christ, c'est pas le foi dans une église, c'est pas la foi dans un homme qui serait là le président ou l'autorité de cette église, ni même dans un pasteur. C'est notre foi en Jésus-Christ. C'est ça ce qui en fait la force. Et cette force tient en un mot, séparation. Bien que nous ne soyons pas séparés, nous vivons dans ce monde, nous avons une vie familiale, une vie sociale, une vie professionnelle, etc. Et nous avons quelque chose à y faire dans ce monde. Puisque Jésus nous a dit, moi je vous envoie, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. C'est pas de se renfermer dans un monastère ou dans un cloître en disant, Seigneur, moi j'en entends plus et je ne vois plus rien. C'est pas ça. Mais c'est de vivre notre vie. Comme Jésus l'a vécu, et de pouvoir communiquer au monde. Si nous sommes le sel, ça donne soif. Et dans un monde de ténèbres, il y a la lumière. Ça, c'est quelque chose qui est important. J'ai cette parole de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6, et il nous dit quelque chose à cet effet. Chapitre 6, verset 14. Il dit ceci, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, c'est-à-dire le diable? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Cette association contre nature, faite de souplesse et de docilité intéressée, c'est là où l'Église première a chuté, parce qu'elle n'était pas intéressée, elle n'était pas désintéressée aux avances de son amant, qui est le monde. Alors a fait l'admiration des habitants de la terre, mais cela ne peut durer. Regardez comment les gens sont attachés à la religion. Ils ne sont pas attachés à Jésus, ils sont attachés à la religion. Ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu, ils sont attachés à la tradition. Ils sont attachés à un lieu, pèlerinage ou autre, mais pas forcément l'adoration de Dieu en esprit, en vérité, où nous n'avons pas besoin de tout cela. Quelle déviation! C'est une association contre nature. Je veux, en disant cela, respecter la conscience de chacun. C'est important de le dire. Mais s'il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est contre les systèmes et les doctrines. C'est une autre affaire. Systèmes et doctrines qui trompent les âmes, qui trompent les hommes. Parce que c'est une séduction où on remet tout en cause. En reprenant la parole perfide du serpent, Dieu aurait-il réellement dit? Eh bien, si vous voulez savoir, et si quel que soit l'homme, là où il se trouve, sous quelque latitude qu'il habite, si nous voulons vraiment connaître la volonté de Dieu, eh bien, on a simplement à ouvrir l'Évangile. La parole de Dieu, elle saura simplement nous enseigner. Et ça va faire tomber des pans de murs, de croyances, d'histoires. Et là, à ce moment-là, les choses vont se faire naturellement. L'état d'adultère a souvent ses crises et ses querelles entre amants. Je parle comme ça, hein, je parle à des adultes. Hein. Comprenez? Oui. Il y a souvent des conflits. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, cette situation, mais moi, ça ne me regarde pas. Ce qui explique si fréquemment les soubresauts et les convulsions de l'histoire des peuples, parfois extrêmement sanglants, entre le monde et l'Église, enfin l'Église mondaine. Ouais. Les conflits, les chocs, les heurts. Et toute notre histoire de nos pays occidentaux est tout imprégnée de sang. C'est ce que nous disions, les guerres de religion et tout ça. Parce que cette Église fausse et ce monde ont souvent marché quand il y avait des intérêts, quand il y avait des conquêtes, quand il s'agissait de prendre des territoires, etc., et toutes sortes de gloires, d'acquérir une sorte de gloire. Mais quand les choses ne vont plus, je peux vous dire que c'est terrible. C'est terrible ce qui s'est passé. C'est pour ça que toutes ces choses, toute cette histoire, ça fait dire à des gens de notre temps et des gens de tous les temps, ne me parlez pas de Dieu, parce que quand on voit un peu ce qui s'y passe dans votre Église ou dans votre prétendu christianisme, alors ne m'en parlez pas. Mais je vous dirais qu'il y a le christianisme, et puis on pourrait parler de l'islam, on pourrait parler d'autre chose, hein, parce que c'est pas mieux dans tout cela. Ouais. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le christianisme. Pour mieux comprendre, nous allons brièvement examiner la perspective historique de la bête vue sous l'angle des civilisations mondiales successives. Alors, je vous demandais, vous connaissez un petit peu, on va réfléchir ensemble. La première Babylonie. Et là, je voudrais quand même apporter quelque chose qui est assez intéressant à prendre en considération. La première Babel. Ça se trouve, et on va le voir d'ici quelques instants, dans le chapitre 11 du livre de la Genèse. Mais ce n'est pas la première Babel. On va voir celui qui l'a construit, c'est au chapitre 10. On va voir ça tout à l'heure. Babel, ça veut dire tout simplement porte de Bel, B-E-L. Ensuite, il y a eu Babylone. C'est le même mot, hein, ça vient. Ça veut dire confusion. Et d'ailleurs, à Babel, ça a été la confusion du langage. Et à Babylone, il y a une porte qui est actuellement, qui a été reconstituée depuis le début du XXe siècle par l'empereur allemand Guillaume II, dont on se souvient de sinistre mémoire parce que ça nous a valu ce qu'on a fêté avant-hier. Il a entrepris des recherches dans toute la région là-bas, en Babylonie, en Mésopotamie plutôt, et ils ont retrouvé à ce moment-là, après des siècles et des siècles d'enfouissement, une des portes de Babylone qui s'appelle la porte d'Ishtar. Et la porte d'Ishtar, ça veut dire la porte de l'enfer. Et si vous allez à Berlin, je ne vous conseille pas d'y aller, mais il y a un musée, le Muséum, Pergamon Museum, ou le musée de Pergame, où vous verrez la porte reconstituée. Vous l'avez certainement vu dans des photos, c'est une porte où il y a toutes sortes de signes, elle est en noir, et c'est une réalité. Ensuite, Babel, Babylone, confusion, Bel, ça veut dire Baal. Ça vous rappelle quelque chose, vous qui lisez l'Ancien Testament? Baal, seigneur, vanité. Et puis, Baal, ça veut dire possesseur. Et, chose étonnante, le symbole de Baal, c'est un croissant de lune. Pour ceux qui connaissent un peu l'islam, vous savez ce que ça veut dire? Croissant de lune. Vous savez le taureau? Le viol de l'Europe. Enfin, le viol de Europe. Je rectifie à chaque fois. Alors, la première Babylonie, dont le grand roi, signalé dans la Bible, s'appelait. C'était pas Louis XIV. Il s'appelait Nimrod. Et on va voir un peu ce qu'il nous est dit sur Nimrod. Ça va, vous suivez? Je ne vais pas être trop compliqué, hein. Mais c'est l'histoire. Écoutez, Genèse, chapitre 10, verset 8. Ça fait partie le début de l'humanité. Il nous est dit que Cush engendra aussi Nimrod. C'est son fils, hein, fils du précédent. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Dites donc, ça vous rappelle quelque chose? On parlait de puissance. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit un chasseur. Alors avant, peut-être il chassait le gibier, mais ce Nimrod qui a suivi les temps et les générations, il chassait l'homme aussi. Hein. Fils de Caïn. comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord, figurez-vous, à Babel. Wow! C'est assez étonnant tout cela. Et puis après, il y a eu la tour de Babel. Les hommes étaient dispersés dans le monde entier. Et ils se sont dit, ça serait bien que quand même on se mette tous ensemble, hein, parce que l'union fait la force. Et on a dit la même chose pour construire l'Europe. Hein. Les pauvres Belges, dont la devise est l'union fait la force, ils ont du mal. Hein. Et c'est la capitale de l'Europe. Et entre eux, dur dur. Hein. C'est les paradoxes. Hein. Ce sont les paradoxes. Avec respect en parlant de nos frères et de nos amis qui sont en Belgique. Remarquons une chose. L'association ville-société-civilisation a donné la tour de Babel. Vous savez, celle qui est à Strasbourg, là. Ensuite, apparaît un autre empire après Babel. Apparaît l'Assyrie. Pas l'Assyrie comme en deux mots, mais l'Assyrie en un mot. C'était un empire colossal, surgit plus tard, qui va venir dans l'histoire du monde avec une arrogance inouïe. Et de là va donner naissance à cet empire babylonien. Après Babel, il y a Babylone, de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, qui est présenté dans la Bible sous la vision du prophète Daniel comme la tête d'or, qui inaugure l'ère des persécutions, des déportations du peuple juif. C'est ce qui s'est passé en l'an 606 avant Jésus-Christ. Je ne sors pas de la Bible, hein, j'ai quand même à vous le dire. Puis vient un autre empire, l'empire des Mèdes et des Perses, qui lui va être aussi un empire qui va être terrible. Voilà. Lequel sera suivi par l'empire fulgurant gréco-macédonien d'Alexandre le Grand. On y va dans l'histoire, on se rapproche. Hein, dont un de ses successeurs redoutables, Épiphane Antiochus, que la Bible distingue comme le précurseur de l'Antéchrist. C'est lui qui rentrera dans le temple de Jérusalem et qui sacrifiera un porc. Alors imaginez-vous, pour les Juifs, waouh ! Image de l'Antéchrist. Et au terme de cette colonne que l'on a appelée la statue de Daniel, dixit le livre Daniel, chapitre 2, chapitre 3, et puis vous verrez. Et ensuite, au terme de cette colonne, l'Empire romain déjà se met en éveil. Et au cœur de l'Empire romain est né celui qui avait été promis déjà depuis le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15, Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le fait du hasard tout ça. Ce n'est pas venu comme cela, naturellement. Il est à dire que tous ces royaumes d'oppression, ces empires plutôt, ont incarné chacun à sa manière, culturellement, et j'y tiens culturellement, parce qu'il y avait de la culture, une haute culture, politiquement et spirituellement, l'occultisme, toutes marquées par la magie, par l'occultisme, l'adoration de faux dieux, l'adoration des hommes dieux, quand c'était les empereurs, ou tous ces hommes élevés en dignité. Ils ont tous personnifié la bête cachée, celle qu'on ne voit pas mais qui est agissante, et ils ont tous péri les uns après les autres. Babylone a été remplacée par l'Empire perse, les Perses ont été remplacés par l'Empire babylonien, et puis l'Empire babylonien a été renversé après par tout simplement l'Empire romain. Et là, où nous en arrivons où, là? L'Empire romain, ça fait déjà près de 1400 ans qu'il a disparu. Mais est-ce qu'il a vraiment disparu dans notre culture occidentale? C'est la question que nous pouvons nous poser. Et ça m'amène à dire ce que je vais ajouter. Toutefois, nous avons à remarquer que la bête semble avoir la facilité de se redresser parce qu'après chaque défaite, après chaque disparition d'un empire qui la représente, eh bien, elle réapparaît comme une renaissance, voire mieux comme une résurrection. Et c'est ce que nous dit le verset 8. La bête que tu as vue, elle n'est plus. Ah, Nebuchadnezzar fini. Darius le Perse, il n'y est plus. Alexandre le Grand, il n'y est plus. Les Césars, ils ne sont plus. Alors la bête que tu as vue, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Oh ! Alors là, attention, hein. Elle reparaîtra. Mais a-t-elle vraiment disparu ? Est-ce que l'esprit du monde a disparu ? Il n'a jamais disparu. Depuis les temps immémoriaux, depuis l'Antiquité la plus extrême, mais ça a toujours été la même chose. Et en parallèle, il y a quelque chose qui marche. Mais côté lumière, côté gloire, côté vie, il y a eu un petit empire qui est né, ou un empire. Il ne s'est pas positionné, il ne s'est pas inscrit sur une carte de géographie, c'est inscrit dans les cœurs et dans les consciences des hommes. Avec un roi dont le trône était une croix et dont la couronne était des épines, avec un message. Et celui-ci a bouleversé l'autre. Et ils subsistent encore, les uns et les autres ont passé, ils ont disparu, ils ont complètement été éliminés de l'histoire, il n'en reste plus que des vestiges dans les musées. Mais l'autre, il subsiste encore. Vous savez, depuis 2000, et puis des poussières, et il est encore là. Il est invisible, mais il est encore présent. L'esprit de ces empires ne meurt pas. Le corps de ces empires meurt. Il disparaît, il réapparaît sous d'autres formes, sous d'autres civilisations, sous d'autres expressions. Alors il ne meurt pas. Avant de tenter une explication, la parole de Dieu nous prévient. Elle nous dit, c'est ici l'intelligence de la sagesse. Alors la sagesse, ce n'est pas notre sagesse à nous pour interpréter, pour spéculer, mais c'est la sagesse qui vient de... Ceci pour dire que la prophétie ne pourra être totalement comprise que lors de sa réalisation finale. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire grand-chose. Et Jésus nous a dit, attention, n'allez pas trop vite. Ceux qui disent, il est ici ou il est là, moi je vous donnais le jour, je vous donnais l'heure. Jésus dit, mais ni les anges, ni le Fils, seul le Père connaît les choses. Alors n'allons pas trop vite. Soyons des observateurs et soyons imprégnés de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu, en laissant à Dieu faire les choses. Mais ça nous encourage, parce qu'on a vu déjà des choses qui se sont réalisées. Alors, ce qui a été réalisé, il reste encore en cours des choses à réaliser, et ça se réalisera. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alors, attention aux spéculations hasardeuses. Disons simplement que ces royaumes et leurs dirigeants qui se distinguent tout simplement par la bête, c'est-à-dire un système politico-religieux, économique, financier, tout ce que vous voulez, culturel, tout ce que vous voulez, tout en faisant partie de cette bête à des têtes, qui indique un empire mondial, universel, qui aura probablement l'aspect d'une confédération d'ampleur planétaire qui subira, qui a déjà subi, des éliminations brutales, puisqu'il nous est parlé des têtes qui tomberont, comme la suite nous le rapporte. Je continuerai dimanche prochain, parce que je ne veux pas, il y a une intensité, et on en parlera encore dimanche prochain, mais je reviens sur cette dernière assertion, c'est qu'on parle aujourd'hui beaucoup de mondialisation. Parce que tant que les empires ont été morcelés, ça n'a été que guerre, dévastation, invasion, etc. Et l'homme s'est dit, surtout en 1945, puisqu'il a créé un nouvel ordre mondial, il y aspirait. Alors on arrête, c'est peut-être plus intelligent, hein, c'est vrai, hein, que de se faire la guerre. Que de se détruire les uns les autres. Comme Jésus nous prévient, sache que dans les derniers temps, il y aura un royaume contre un royaume, il y aura ceci contre cela, et il y aura des guerres, il y aura toutes sortes de choses. Bon, ça, on est prévenu. Et le monde a connu cela pendant des siècles et des siècles. Et avec les atrocités de ce XXe siècle, parce qu'on s'est quand même, on n'y a pas été quand même avec mollesse, hein, 10 millions de morts dans la première, et 50 millions dans la deuxième, ça fait quand même pas mal. Hein. C'est terrible, hein. Diabolique. épouvantable. Il n'y a pas de mot. C'est une abomination. Alors les gens se sont dit, puisque ça a été déclaré à la création des Nations Unies, on a dit, voilà, maintenant, eh bien, on va mettre en place un nouveau statut pour l'humanité. Maintenant, c'est planétaire, on ne peut plus penser à soi-même. Alors, on a déclaré un nouvel ordre mondial. Et puis aujourd'hui, il y a un mot qui revient très souvent, c'est la mondialisation. Mais qui sera le roi et qui sera le souverain de ce monde-là? Je vous donnais soif. Revenez donc dimanche prochain. Voilà, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. En tous les cas, nous voulons rester vraiment attachés à Jésus. Et nous voulons être attachés à sa parole. Que Dieu nous donne sa grâce. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir. Parce que c'est vrai, Père éternel, que nous ne sommes peut-être pas attachés aux symboles. Puisque notre foi, c'est une foi en esprit, en vérité. Mais néanmoins, nous vivons dans un monde qui est plein de symboles, et des symboles qui parlent. Des symboles qui sont criants, Seigneur, d'une réalité qui est celle de notre monde d'aujourd'hui. Seigneur, en puisant ses racines dans l'histoire, dans toutes ces religions d'hier, ces religions d'aujourd'hui, eh bien, nous pouvons comprendre qu'en effet, Seigneur, nous avons besoin de relever notre tête. Tu nous dis, en effet, Seigneur, lorsque vous verrez le figuier fleurir, porter des feuilles, sachez que l'été est proche. Alors c'est vrai, Seigneur, nous sentons bien qu'il y a eu probablement des hivers interminables sur cette terre, mais que le printemps est venu lorsque Jésus est apparu avec l'Évangile. Ça, c'était le printemps de l'humanité, un souffle nouveau, une bonne nouvelle de vérité et d'amour. Ça, c'était le printemps, c'est le printemps, et nous sommes encore au printemps. Mais nous savons que là, en effet, l'été va bientôt arriver. Et avec l'été, Seigneur, il y a des bons fruits, mais il y a aussi des mauvais fruits. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment nous attacher aux fruits qui viennent du ciel et pas les fruits qui viennent de la terre. Parce que nous savons que le fruit de la terre a toujours été arrosé par le sang. Mais le fruit du ciel a toujours été arrosé par une bénédiction, une espérance extraordinaire, celle de l'éternité. Tu nous bénis, Seigneur, tu bénis mes frères et mes sœurs, tu nous bénis les uns et les autres, Seigneur. Et tu nous donnes de comprendre la sagesse qui vient d'en haut, parce que c'est l'intelligence des chrétiens, c'est l'intelligence des saints. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci notre Dieu, merci dans le nom de Jésus. Amen, amen.